Merci beaucoup pour cette introduction et puis pour cette invitation surtout à partager avec vous ces réflexions sur la sauvegarde du patrimoine scientifique et technique de la recherche. Alors, donc je vais commencer à vous exposer un petit peu ce qu'est le réseau Resitech, la mission PatTech, les modalités de sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel, on va en reparler. Et puis Isabelle complétera avec ses connaissances et son expérience sur la question des logiciels. Alors, dans un premier temps, de quoi parle-t-on? Alors, sauvegarde du patrimoine scientifique de la recherche contemporaine. Donc, il s'agit de transmettre aux générations futures, ça c'est la définition basique de ce qu'est le patrimoine, des biens matériels, donc des objets, des archives, et immatériel, alors des savoir-faire, des activités, voilà. Alors, le patrimoine issu des activités scientifiques, c'est ce qu'on appelle la recherche aujourd'hui, hein. Donc la recherche, le terme contemporain, il désigne toutes les activités scientifiques qui se sont structurées après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc la période qui nous intéresse, c'est tout ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Donc seconde moitié du XXe siècle, c'est ce qui va nous préoccuper plus particulièrement. Alors pourquoi parle-t-on de sauvegarde? Le terme de sauvegarde désigne une urgence. Et en effet, il y a urgence, puisque les évolutions techniques, scientifiques, ont été extrêmement rapides. Robert Halleux, un historien des sciences belges connu de nos réseaux, répète souvent que dans l'histoire de l'humanité, les évolutions techniques n'ont jamais été aussi rapides qu'au cours du XXe siècle. Et cette rapidité a rendu obsolète un grand nombre d'objets, a entraîné des mutations profondes et rapides des pratiques et des outils. Et donc, très rapidement, il y a des outils et des connaissances qui sont en train de disparaître. Toute cette démarche de sauvegarde qui s'inscrit dans une urgence. De plus, un objet tout seul n'a pas de sens si on n'a pas des informations sur son usage. Et le départ de la vie professionnelle des personnes qui ont utilisé ces objets entraîne aussi un deuxième risque de perte de mémoire sur ces évolutions techniques et technologiques. Donc, il y a des nécessités de sauvegarder les éléments de ce patrimoine. Alors, quand on parle de sauvegarde de ces objets, on peut vite comprendre qu'il y a des spécificités aux objets techniques de la recherche. Ce sont des objets complexes. Après 1945, il y a le développement de ce qu'on appelle la Big Science, donc ces énormes dispositifs. Donc comment sauvegarder ces énormes ensembles? Les ensembles d'expérimentation souvent sont composés de plusieurs instruments, des dispositifs qui prennent beaucoup de place. Il y a aussi les phénomènes de miniaturisation, de boîtes noires. Un instrument scientifique, pour prendre un exemple tout bête, un microscope, on pouvait comprendre ce que c'était. Voilà, aujourd'hui, les instruments ne sont plus lisibles comme autrefois. Et puis, l'arrivée de l'informatique, et ça, Isabelle en reparlera, la numérisation des outils et des supports complexifie encore cette démarche de sauvegarde. Et puis, il y a un autre fait qui rend l'accès à la sauvegarde des objets scientifiques complexes, c'est que les laboratoires, traditionnellement, ne sont pas tellement tournés vers leur passé. Il y a plutôt une démarche d'innovation, ils sont tournés vers le futur, et donc la notion de patrimoine au sein d'un laboratoire, elle ne va pas de soi. Un chercheur, quand il n'a plus besoin de son objet, s'il aime bien son objet, il va le garder dans un coin, mais il ne va pas forcément en faire état à tout le personnel du laboratoire. Et sinon, les objets sont jetés petit à petit. Donc, il y a aussi il faut sensibiliser les laboratoires à leur patrimoine. Alors, quelle modalité de sauvegarde, vu cette complexité-là, on peut mettre en place? Alors, donc, face à ce constat, en fait, le ministère de la Recherche a confié au Musée des Arts et Métiers, et c'est pas par hasard si c'est le Musée des Arts et Métiers qui a arrêté de cette mission-là, puisque c'est un peu dans ses gènes, d'une mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique. C'est ce qu'on appelle le fameux PatTech, patrimoine scientifique et technique contemporain. Donc cette mission, en fait, elle démarre au niveau national en 2003, mais il y a eu des expériences dès 1999 à Nantes par Catherine Coinca et Yves Thomas. Donc le rôle de cette mission, donc le ministère de l'Enseignement supérieur missionne le Musée des Arts et Métiers, qui missionne la mission nationale pour susciter en région des démarches de sauvegarde du patrimoine, repérer des acteurs qui sont déjà parfois dans cette démarche-là. Et puis, le Musée des arts et métiers, par son expertise sur l'objet scientifique et technique, peut apporter un rôle de conseil. Alors, cette mission, aujourd'hui, en 2018, donc en 15 ans, elle a fait des petits, hein, puisque vous voyez, il y a 17 régions qui sont impliquées, dont la Normandie par le réseau Resitech. J'y reviendrai un petit peu après. Donc, cette mission, elle est portée soit par des organismes de recherche, des communes, ça peut être parfois des entreprises, des muséums. Par exemple, en Auvergne, cette mission, elle est portée par le muséum de Clermont-Ferrand. Et puis, des délégations CNAM. Donc, aujourd'hui, il y a 50 personnes sur le terrain qui font le même travail que moi de sauvegarde des objets. Alors, quels sont les objectifs du coup de la mission? Donc, je vous ai dit, c'est de pouvoir sauvegarder ces instruments. Comment, par quoi ça passe? Alors, ça passe par un répertoire des instruments scientifiques, de la recherche publique et privée des 50 dernières, à travers un inventaire détaillé. Donc là, vous avez sur les écrans l'interface de saisie. Donc, toutes les régions impliquées vont rentrer des objets, fiche par fiche. Alors, cet inventaire, ça constitue un premier outil de sauvegarde. C'est-à-dire que si le laboratoire ne peut pas conserver l'objet en question, on aura au moins une trace du nom, de son usage au sein du laboratoire, qu'il a utilisé, pourquoi, pour quelle publication scientifique, à quelle période, etc. Donc ça, c'est la première phase de sauvegarde. Ensuite, évidemment, le fait de s'intéresser à certains objets, de mener l'inventaire, ça va être un argument pour sensibiliser le laboratoire à son patrimoine. Et donc, il pourra y avoir, dans une deuxième phase, des démarches de sauvegarde réelle de l'objet quand c'est possible, voire de conservation, voire de valorisation, qu'on ne va pas trop aborder là, mais qui est une phase importante. Cet inventaire, donc, il s'agit de décrire l'objet. Qu'est-ce que c'est? À quoi il sert? De faire un constat d'état. Est-ce qu'il est abîmé? Est-ce qu'il manque des pièces? De pouvoir y associer des photographies, des vidéos, des notices, des publications, des témoignages des chercheurs qui les ont utilisés. Ça, c'est très important. L'objectif, c'est vraiment de contextualiser l'objet. Parce qu'on est donc sur la seconde moitié du XXe siècle. Il y a un grand nombre d'objets qui ont été construits en série. Donc, on va retrouver d'une région à une autre. Donc, il est nécessaire de pouvoir vraiment décrire l'usage dans lequel il s'inscrit. Et puis, donc ça, je l'ai déjà abordé. Donc, à côté de cet inventaire physique de l'objet, on va essayer de pouvoir repérer les savoir-faire qui sont liés à cet objet-là. Par exemple, je pense à quelque chose que certains d'entre vous connaissent bien. On a étudié beaucoup la sonde atomique de l'Université de Rouen, qui est un instrument qui permet de faire des analyses à l'échelle atomique. Pour utiliser cet objet-là, il faut faire des échantillons en forme de pointe. Ça, c'est un savoir-faire qui est développé au sein de cette équipe-là. Donc, de pouvoir repérer comme ça les différents savoir-faire qui sont liés aux objets. Alors, cette base de données, toutes les régions rentrent les objets. Aujourd'hui, la mission, donc au niveau national, il y a à peu près 18 000 objets inventoriés. Pardon. Et donc, on voit les thématiques de ces objets. Il y a beaucoup d'objets qui sont utilisés en physique, en santé, en biologie, en ce qu'on pourra appeler sciences dures. Mais parce qu'il y a beaucoup d'objets qui sont utilisés pour les différentes expérimentations, mais on n'exclut pas du tout les sciences humaines. Par exemple, en psychologie, il peut y avoir des appareils qui ont servi à faire des analyses de comportement ou des choses comme ça. Alors, c'est vrai, jusqu'alors, les différentes régions ont été souvent sollicitées par des laboratoires plutôt en sciences dures, mais le projet de sauvegarde du patrimoine de la recherche pourrait très bien s'étendre, s'étendra à d'autres thématiques. Alors, en Normandie, comment ça s'est structuré tout ça? Donc, la mission PADSTEC, elle s'est développée grâce à l'INSA de Rouen et à l'Université de Rouen. Donc, l'INSA de Rouen, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une école d'ingénieurs qui a été créée, qui tient ses origines dès le début du XXe siècle et qui avait travaillé dès les années 2004-2005 sur son patrimoine avec le service de l'inventaire, qui est le service spécialisé dans les inventaires des objets patrimoniaux qui ne sont pas en musée. Et puis, donc, ils ont mené un certain nombre d'actions sur leur patrimoine instrumental, mais aussi sur l'histoire de leur école, etc. Donc, ces premiers travaux, ça a permis de réunir des historiens, des sociologues, de pouvoir se poser la question de quoi faire de ces instruments, de pouvoir se rapprocher des spécialistes. Et de fil en aiguille, ils se sont rapprochés du musée des arts métiers. Et donc, ça aboutit à la convention signée en 2008 en partenariat avec l'Université de Rouen. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai été recrutée pour mener cet inventaire au sein des laboratoires régionaux. Alors, cet inventaire, ces travaux, ils ne peuvent évidemment pas être faits sans un réseau très actif de bénévoles et de correspondants au sein des laboratoires, puisque en tant que chargée d'inventaire, je n'ai aucune connaissance sur les instruments, les laboratoires, etc. Donc, il est nécessaire de pouvoir établir des liens dans les laboratoires, de pouvoir s'appuyer sur des experts au sein des différents laboratoires. Voilà. Alors, au niveau local, donc, on a une carte Haute-Normandie, parce que même si on parle de région Normandie, à l'heure actuelle, les travaux ont quand même été concentrés sur la Haute-Normandie. Donc, on a des chantiers d'inventaire au sein des laboratoires de recherche régionaux, essentiellement du campus rouennais. Donc, on peut citer le groupe de physique des matériaux, le laboratoire Coria. Au sein de l'Institut régional de chimie organique fine, l'IRCOF, qui est juste à côté, on a travaillé avec le laboratoire SMS, COBRA. Mais vous voyez aussi qu'on a des partenariats avec des musées, les musées des sapeurs-pompiers. Alors, on peut se dire, qu'est-ce qu'ils font avec le musée des sapeurs-pompiers? Eh bien, il y a des liens sur certains objets de mesure, par exemple. Ça nous semblait important au sein du réseau de pouvoir rassembler toute une communauté impliquée dans la sauvegarde du patrimoine scientifique et technique. Et donc, dans le patrimoine technique, il y a des associations qui sont impliquées. Il y a des musées. Le musée Flaubert d'Histoire de la Médecine a dans ses réserves des microscopes électroniques, a dans ses réserves des tubes à rayons X. On va retrouver des tubes à rayons X dans des laboratoires de recherche. Donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler ensemble sur la documentation des objets. Donc, c'est un réseau très large. Donc, voilà, on travaille aussi avec les établissements d'enseignement, donc l'UFR des sciences, évidemment, l'IUT. L'IUT, par exemple, à Rouen, c'est le premier UT de France. Et donc, ils ont dans leur fonds d'instruments des objets assez anciens et qui sont des fois issus des laboratoires régionaux aussi. Donc, ça, c'est un exemple assez intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les collections? Voilà à peu près les acteurs. Aujourd'hui, en 10 ans, on a à peu près 1000 objets qui sont inventoriés, qui sont dans notre base de données Resitech, Padstech, et puis 500 qu'il y a à faire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces collections? Je vous ai dit que ce qui nous intéressait, c'était plutôt le patrimoine contemporain des 50 dernières années. Mais on trouve, quand on fouille un peu dans les laboratoires, et ben des objets qui sont plus anciens. Donc, évidemment, on ne va pas les mettre de côté. On ne les saisit pas forcément dans la base d'inventaire PADSTEC, parce que ce n'est pas, leur mission première. Mais par contre, on va les documenter aussi. Et ils vont nous servir dans tout ce qui est exposition. Voilà. Donc là, on a deux exemples. C'est des objets qui était utilisé au sein de l'école préparatoire des sciences et belles-lettres. Donc, pour les personnes qui connaissent, c'est l'école qui avait en face du muséum avant que l'université se développe dans les années 60. Quoi. Donc, c'est des objets qui datent de la fin 19e, début 20e. Des objets de physique, encore une fois. Et puis, on trouve donc dans notre inventaire des objets, cette fois, qui datent de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc là, ce sont des objets qui viennent du groupe de physique des matériaux. On a le petit bleu ciel, j'aime bien. C'est un objet qui permet de faire de la cristallographie. Ici, à droite, on a un microscope électronique et puis un appareil de mesure juste en dessous. Donc, ces objets, même si notre mission première, c'est vraiment de faire ces fiches de sauvegarde virtuelle du patrimoine, il est quand même intéressant de les garder physiquement. Donc après, il y a un long travail avec les différents établissements pour pouvoir arriver à en conserver, faire un tri et de pouvoir les stocker. Donc à l'heure actuelle, on est à peu près 300 m² de réserve qui ne sont pas ouvertes au public, même si pour certaines actions, comme la fête de la science ou des choses comme ça, on les ouvre de temps en temps. Donc il y a 3 sites. Un site à l'INSA de Rouen sur le campus du Madrier, des réserves à l'IUT, et puis la dernière photo, alors c'est encore un petit peu le bazar, mais ça va être de très belles réserves, j'en suis ravie, à l'UFR des sciences et techniques, donc un grand espace qui nous est, qui est en train d'être aménagé et qui va vraiment être très bien. Voilà, alors je vous disais tout à l'heure, l'objet scientifique et technique, voilà, on va essayer de le sauvegarder, mais c'est très important de pouvoir le documenter. Donc se pose la question des archives scientifiques. Quand on rencontre les différents chercheurs, ingénieurs, techniciens, ils peuvent parfois nous confier des notices, des archives. Donc évidemment, on prend en compte ce patrimoine-là. On peut aussi, des fois, avoir des notices d'objets qu'on n'a pas. Mais ça peut être intéressant de les conserver quand même. Donc on est en train de développer des partenariats, notamment avec la bibliothèque des sciences et techniques. Et puis, il y a tout un pan d'entretien, de collecte d'archives orales, qui est aussi fondamental pour pouvoir documenter les objets. Donc, on a mené, parallèlement aux inventaires, des campagnes de collecte, donc une au sein du groupe de physique des matériaux sur la fameuse sonde atomique dont je parlais tout à l'heure, et puis une au laboratoire Coria aussi. Donc, à peu près 80 heures d'entretien, dont une partie est retranscrite et qui, du coup, constitue un matériau qui peut être valorisé. Donc, il y a eu une expérience assez positive de documentaire avec le CNRS. On espère pouvoir mener d'autres projets dans le même style avec le matériau Coria. Donc, ça, c'est dans... Voilà, plus tard. Alors, pourquoi on s'intéresse au logiciel ? En fait, au départ, ça n'a pas été évident. C'est la maturation au sein des problématiques qu'on rencontre au sein des inventaires. Là, par exemple, vous avez un morceau de sonde atomique et puis un cliché d'un des premiers ordinateurs qui a servi à comprendre les résultats qui pouvaient être obtenus grâce à cet objet. Et en fait, je ne me suis jamais posé la question. Enfin, on ne s'était pas posé la question sur avec quel logiciel fonctionne la sonde atomique. Alors qu'en fait, c'est vraiment une part très importante de la chaîne opératoire de l'instrument. C'est ce qui va pouvoir traiter le résultat. Et on était un petit peu passé à côté. Alors, premier constat. Et puis, un second constat, là, à côté, vous avez un système d'analyse. Alors, c'est un dispositif de granulométrie, donc en gros, qui permet de faire des mesures de taille de goutte de spray. Donc, il avait été mis en place dans les années 90, qui a été utilisé pendant très longtemps. Et l'ingénieur partait en retraite cette année. Et en fait, il nous a confié son ordinateur portable des années 90. Et en fait, il avait le logiciel qui allait avec et qui fonctionnait encore. Donc, on avait le logiciel en format fichier sur l'ordinateur et puis le listing informatique du logiciel. Là, on s'est dit quand même, c'est très intéressant d'avoir la machine, l'ordinateur, le logiciel. Et ce logiciel, comment on peut le traiter ? Est-ce qu'on, si on met dans notre fiche d'inventaire qu'on a le logiciel, ça ne nous apporte pas grand-chose alors que c'est une part importante d'un point de vue du patrimoine scientifique et technique. Alors... ça, c'est un premier constat. Le second constat, qui n'est pas révolutionnaire, on le sait tous, c'est que l'informatique a vraiment révolutionné les pratiques de tout un chacun, mais aussi au sein des universités et des centres de recherche. Ici, on a une petite cartographie où on voit le nombre de laboratoires en 1973, qui a quand même très longtemps, qui sont dédiés à l'informatique. Donc c'est déjà extrêmement nombreux. En réfléchissant, on se rend compte que le logiciel est à la fois une partie fonctionnelle d'un dispositif, comme tout à l'heure pour la granulométrie, mais c'est aussi une part entière de la recherche fondamentale. Alors, l'autre question, c'est est-ce qu'il y a une utilité, un intérêt à sauvegarder les logiciels de la recherche ? Alors, d'un point de vue de la recherche scientifique, normalement, toutes les expérimentations doivent pouvoir être reproductibles. Alors ça, c'est donc les chercheurs doivent conserver les bibliothèques de leur logiciel. Mais dans les faits, évidemment, vu le nombre de logiciels, etc., le logiciel apparaît parfois comme un outil secondaire et il n'y a pas de réglementation en France vraiment efficace sur ces questions-là. Donc ça, c'est un constat. Et puis le second, c'est que le logiciel, en tant qu'outil de travail, il témoigne aussi également de la pratique intellectuelle du scientifique. Et Donc c'est un outil qui mérite aussi d'être conservé puisqu'il documente la pratique du scientifique. Alors, suite à ce constat-là, on s'est dit, est-ce qu'on peut inventorier un logiciel? Est-ce qu'on peut faire une fiche particulière pour inventorier un logiciel? Donc, dans le réseau national dont je vous parlais tout à l'heure, les spécialistes de l'informatique, c'est l'association Aconit, qui est un conservatoire de l'informatique hein, aussi, et qui est l'un des fondateurs, Philippe de Noyelle, est vraiment expert. Donc, on s'est tourné vers lui, il nous a donné sa grille. Donc, eux, ils sauvegardent tous les logiciels qu'ils peuvent trouver. Donc nous on s'est rapproché d'Isabelle et puis on a fait des tests alors avec les chercheurs qui étaient d'accord, qui avaient développé des logiciels pour essayer de faire une fiche d'inventaire voilà sur le logiciel. Alors on avait quelques exemples et donc l'exemple que je vous montre là, c'est une fiche donc, d'un logiciel de Jacques Théillet qui est ici. Donc, si vous avez des questions techniques, scientifiques, ce sera sûr. Vous pourrez demander à Jacques. Donc, c'est un logiciel qui a été développé dans les années 60. Donc, la grille de cette fiche d'inventaire, le nom du logiciel, l'auteur, la date de la première version, les objectifs de ce logiciel, l'intérêt patrimonial, pourquoi c'est intéressant qu'on puisse garder une trace de ce logiciel. Dans le cas présent, c'est un des premiers programmes d'ajustement physique en spectrométrie Most Power, je ne rentrerai pas dans les détails. Et surtout, c'est un programme qui a été ouvert et dont la communauté scientifique spécialisée dans cette thématique-là a pu réutiliser et qui a eu une vie au sein de la communauté. Alors là, pour ce fichier-là, est-ce qu'on a le code source? Est-ce qu'on a les supports? En quel langage c'est écrit? Quelles sont les étapes de développement, le mode opératoire, l'architecture, et puis est-ce qu'il y a des publications, des manuels qui sont associés à ce logiciel. Alors pour l'instant, on a 3 fiches d'inventaire. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup développé, qui pose question. Et comme je ne suis vraiment pas spécialiste en logiciel, je vais laisser la parole à Isabelle qui va pouvoir revenir sur ces thématiques-là.
Tu veux rester là ?
Non, c'est plus facile. Hop.
Donc voilà, Anne-Sophie donc vous a expliqué donc l'intérêt en fait de la sauvegarde du patrimoine informatique et du logiciel en particulier. Moi je vous ai expliqué un petit peu des problèmes que l'on rencontre pour sauvegarder ce logiciel. Je complète la présentation. Je suis Isabelle Astic, effectivement, responsable des collections informatiques au Musée des Arts et Métiers. Le Musée des Arts et Métiers est un musée très ancien, spécialisé dans la conservation du patrimoine technique. Hein. Au départ, plutôt orienté à l'industrie. Il était là pour sauvegarder les perfectionnements de l'industrie nationale. Et puis, petit à petit, on va au-delà de l'industrie. Ce qui nous intéresse, en fait, ce sont vraiment les jalons technologiques importants qui sont apparus essentiellement. Donc on a le Musée des Arts et Métiers donc, qui se trouve à Paris, a été fondé en 1794, donc au moment de la Révolution, et on compte à peu près un volume de 80 000 objets techniques conservés essentiellement dans les réserves du musée, puisqu'on n'a que 4% en fait, qui sont présentés au musée proprement dit. Dans le musée, en fait, ces objets sont présentés sur 7 domaines, qui sont les instruments scientifiques, dont fait partie de l'informatique en partie, enfin, dont faisait partie l'informatique en partie, les matériaux, la construction, la communication, donc autre domaine où on voit intervenir l'informatique, l'énergie, les mécaniques et le transport. Voilà pour les 7 domaines usuels et anciens. Plus un, donc voilà, c'est le domaine de l'informatique qui en fait apparaît. Donc j'étais embauchée en fait au musée il y a 10 ans, justement pour mettre en fait en avant l'informatique et la collection informatique, créer en fait une collection informatique. Alors quand je dis créer, parce qu'elle existait déjà, enfin les objets sont déjà dans le musée. Tous les objets que je vous présente là sur la droite, là, les 5, ce sont des objets qui sont rentrés déjà depuis longtemps. Vous avez notamment ici, je ne sais pas si ça s'affiche. Non, vous ne la voyez pas. Je vous dis, dans la collection informatique, il y a 162 ensembles. Et dessous, vous avez une photo de la machine Dollritz, qui était une machine qui a servi à faire le recensement. Enfin, pas celle-ci, mais ça, c'est le prototype. A servi à faire le recensement des États-Unis en 1890. Donc, cette machine a été inventé par Hermann Olrich à cet effet. Donc en 1889, elle a été présentée à l'exposition universelle à Paris. Et cette machine-là, celle que vous voyez, a été donnée au CNAM à l'issue de cette manifestation. Donc c'est une machine qui est très importante et pour moi c'est vraiment le fondement de l'informatique, enfin l'un des fondements de l'informatique parce qu'on a le calcul aussi bien sûr, mais là on a vraiment pour moi le début du calcul automatique, le traitement automatique des données. Un informatique c'est bien ça, c'est l'information, calcul, enfin traitement automatique de l'information. Et là, avec la machine Olrich, on va traiter l'information à partir de cartes perforées. Ce sont les toutes premières utilisations des cartes perforées pour ce genre de traitement, pour les statistiques. Donc pour moi, voilà, on a ce premier jalon qui marque le début de l'informatique. Bon, c'est comme ça que je le vois. Donc 1889. Donc voilà, ça n'a pas attendu 2008 pour rentrer au musée. Après, vous avez différentes... on a différentes étapes avec l'utilisation des relais téléphoniques. C'est la machine qui se trouve dessous avec les... qui est ouverte un peu comme un éventail. C'est le Gamma 3. C'est une machine qui était... C'est un calculateur qui était associé à un atelier de mécanographie. L'atelier de mécanographie était capable en fait de traiter un volume important de cartes perforées pour faire des calculs comme des gestions de comptes bancaires, etc., ou de la paye. Et donc, les calculs devenant de plus en plus importants, en fait, la machine qu'il faisait va se diviser en deux machines, une machine qui va traiter les cartes et une machine qui va faire les calculs. Et donc, le Gamma 3, c'est la première vraiment machine indépendante qui va être la machine de référence pour les calculs, si vous voulez. Au départ, vous aviez la tabulatrice qui traitait les données et qui utilisait la calculatrice comme esclave, c'est-à-dire qu'elle lui envoyait les données à faire les calculs, puis elle récupérait les calculs. À partir du Gamma 3, c'est vraiment le calculateur qui va devenir important. Et la tabulatrice va être juste à périphérique, si vous voulez, d'entrée des données et de restitution. Donc, après, tout en haut, avec le liseré bleu, vous avez le stretch. Donc, ça, c'est la console de maintenance de la machine IBM Stretch, qui était le supercalculateur de l'époque. Nous sommes en 1960. Le Gamma 3 est en 1955. Et là, on commence à... Donc, c'est les premières machines à transistor. Et ensuite, vous avez donc la micro-informatique avec le Micral-N. Nous sommes dépositaires en fait de la machine de François Jernel qui a inventé le Micral-N, qui est le premier micro-ordinateur en fait, ordinateur en France. On dit le premier ordinateur aussi au monde. Bon, il y a des débats avec les États-Unis, bien sûr, comme toujours. Donc voilà, je ne rentrerai pas. En fait, bon, c'est disons que le micro-ordinateur devait se faire. Il s'est fait en France, il s'est fait aux États-Unis, et puis voilà quoi. Et en dessous, donc, pour vous dire qu'on n'est pas complètement non plus... on est musée, mais on est quand même assez récent. On a rentré en collection l'année dernière, pas tout, une partie de supercalculateur BlueJinQ, qui est un supercalculateur d'IBM, qui date de 2006, en fait, hein, qui vient du CNRS. Donc voilà, donc on a vraiment... On sauvegarde depuis très longtemps, en fait, l'informatique. J'irais dire sans le savoir. Hein, donc l'idée, c'était de constituer en fait une collection autour de ce thème particulier de l'informatique. Donc j'en reviens à la préservation du patrimoine informatique immatériel. Donc on parlait du logiciel. En fait, je vais élargir un petit peu la problématique au patrimoine informatique immatériel, c'est-à-dire en fait à la partie numérique. Parce qu'en fait, un logiciel, c'est jamais qu'un fichier numérique. Voilà. Donc l'enjeu pour la sauvegarde de ce patrimoine, c'est deux enjeux principaux. C'est il faut conserver beaucoup de choses en fait pour pouvoir préserver le patrimoine immatériel. Et d'autre part, il faut pouvoir le retrouver. Ah, c'est le problème de toutes les bases de données. Là, vous avez autant un objet, tu l'as montré tout à l'heure dans les réserves, on le voit, il n'y a pas de souci. Autant un logiciel, on ne le voit pas. Donc, il faut savoir où aller le chercher et comment aller le chercher. Donc, c'est tout un problème d'indexation, en fait, et que l'on va avoir. Donc, en tant que responsable des collections informatiques, je m'intéresse à ce sujet. Actuellement, au musée, on ne pratique pas encore la sauvegarde du logiciel. comme vous, en fait, on a travaillé d'abord sur le matériel, parce que aussi on avait une antériorité sur le matériel, et puis quelque part, j'allais dire, c'est un peu plus facile. Voilà. Et maintenant, c'est vrai que voilà, on arrive au logiciel et il faut s'y atteler. Donc j'ai fait un peu un état de l'art de ce que j'ai pu constater comme initiative sur le domaine de la préservation du logiciel. Et donc c'est en fait c'est ça que je vais vous présenter. Donc le premier enjeu, c'est l'écosystème. Si, voilà, je vais prendre un exemple. Vous avez un fichier de photos sur CD-ROM. Hein, on en a tous. On en a tous eu. On en a tous encore, sans doute. Et en fait, comment est-ce que je vais conserver ce fichier particulièrement ? La première question... Alors ça, c'est pour le cas personnel, c'est comment je vais le préserver. Dans le cas d'un musée ou d'une institution, le problème de la conservation se pose en termes de valorisation. C'est-à-dire qu'un musée ou une institution ne va conserver un objet que s'il estime qu'à un moment donné, tout de suite ou plus tard, hein, encore une fois, on parle pour les générations futures, il va être valorisé, il va être utilisé, cet objet. On ne garde pas des choses pour que ça soit dans un placard, que ça soit là, quoi. On estime qu'à un moment donné, cet objet va être intéressant à être étudié. Parce que c'est un jalon, c'est pour ça qu'on garde les jalons technologiques importants, parce que c'est un jalon. Donc à un moment donné, quelqu'un va avoir envie de le regarder, de l'étudier. Donc ça peut être une valorisation par une exposition, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Ça peut être une valorisation par des chercheurs aussi qui vont venir s'intéresser à l'objet, étudier, etc. Tu parlais de Pierre Mounier-Kuhn, il vient régulièrement voir les objets, consulter nos archives, pour voilà, comprendre. Donc, important de comprendre que quand on conserve, c'est pour valoriser. C'est important notamment pour les fichiers numériques. Autant un objet, vous avez vos sens qui vous permettent de le prendre en compte, de le sentir, de le voir, etc. Un fichier numérique, en fait, il vous faut un outil pour ça. Autrement dit, quand on va conserver un fichier numérique, il faut conserver les outils qui permettent d'y accéder. Et c'est là qu'on va rencontrer le problème. C'est entre autres. Donc, je reprends mon exemple de mon fichier photo sur le CD-ROM. Vous voulez pouvoir le relire plus tard. Eh bien, il faut que vous ayez déjà un lecteur de CD-ROM. Donc, je ne sais pas si... Enfin, il y en a de moins en moins. Hein, vous voyez, sur les portables, on en envoie de moins en moins. Donc, ça veut dire qu'il faut préserver quelque part un lecteur de CD-ROM. Alors, un lecteur de CD-ROM, là, on n'avait pas trop de problèmes puisque les CD, tous les lecteurs sont quasiment pareils. Il n'y a pas de souci. Mais avant les CD-ROM, il y avait des disquettes. Et là... on a eu plusieurs formats de disquettes. Donc, c'est un problème. Donc, ça veut dire qu'il faut conserver un certain nombre d'instruments pour pouvoir relire, en fait, les fichiers d'origine. Et conserver le lecteur, ce n'est pas tout. Il faut pouvoir accéder à ce lecteur, le mettre en route. Donc, ça veut dire conserver le pilote du lecteur. Donc, ça veut dire conserver le système d'exploitation sur lequel on va pouvoir installer le pilote, parce que tous les pilotes ne se conservent pas partout. Et ça veut dire conserver, du coup, une machine sur laquelle on va pouvoir mettre le système d'exploitation. Donc là, vous voyez que pour un fichier qui est... un fichier de photos, ce n'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Il vous faut déjà 4 choses avant de pouvoir espérer lire le fichier. Parce qu'une fois que vous avez tout ça, il faut aussi, en fait, comprendre le format du CD-ROM. C'est-à-dire savoir, en fait, comment sont organisés les fichiers à l'intérieur du CD-ROM. Alors là encore, je vous ai pris un exemple standard. Le CD-ROM, il n'y a pas trop de... Maintenant, on a des formats standards, enfin, des formats, oui, standardisés, avec le FAT32, NFS, tout ça, on sait. Mais dans les années, 80, etc., on avait des systèmes Amiga, Atari, qui avaient chacun leur format. Donc il faut pouvoir relire, comprendre comment sont répertoriés les fichiers à l'intérieur, sur votre support. Je vous ai mis un exemple ici, qui est là très ancien, on est dans les années 50, c'est un programme. Un programme sur un calculateur, qui était le calculateur qu'aurait dû concevoir le CNRS dans les années 55, sous l'égide du professeur Coufignal. Vous avez un petit programme là, qui, d'après ce qui est marqué sur l'étiquette, calcule des cosinus et des sinus. C'est un programme qui est inscrit sur une pellicule de film, en fait. Hein. Donc, c'est gravé. Vous avez à gauche... Donc, il y a 3 photos. La photo, c'est... donc, c'est une photo faite à l'appareil photo normal. À gauche, vous avez le programme qui est, en gros, donc, avec une partie de... la colonne de gauche avec des traits, vous voyez, qui sont vraiment très réguliers. Et la partie de droite avec des traits, par contre, qui ne sont pas du tout réguliers. À partir de gauche, c'est ce qu'on appelle l'horloge, c'est-à-dire que c'est là où vous avez, c'est ça qui va marquer le début de l'instruction, le début du petit code de programme ou le début de la donnée. Et la fin, c'est la fin de la donnée. Donc chaque bloc correspond à une donnée d'à côté. Et la partie de droite, c'est la donnée. Alors, on le sait, ça, on le sait, parce que on a, si vous voulez, en regardant le film, on voit bien, si vous voulez, qu'on a quelque chose de régulier à gauche et on sait comment marche un ordinateur. Donc on a pu en déduire ça. Mais après, vous dire où sont les commandes, comment est-ce qu'on calcule tangente ou cosinus et sinus avec ça, ça, on est incapable de le dire parce qu'on n'a plus le codage, en fait, de l'instruction. On n'a plus le format. Donc, voilà, maintenant, avec les formats standards, ça va être facile, mais c'est vrai que nous, on est musée. Ouais, pour les formats plus moins standards et plus anciens, hein, c'est bien plus compliqué. Voilà, donc ça, voilà, on n'a pas encore lu le fichier. Hein. Voilà. Alors après, voilà, on va lire le fichier. Il faut connaître le format du fichier. Il faut conserver aussi l'application capable de lire le fichier. Hein. Encore une fois, pour une application photo, c'est passible. Pour d'autres fichiers, je pense carrément, enfin quasiment un fichier Word, on a encore des problèmes des fois pour lire un fichier d'une machine à l'autre. Hein, les formatages n'est pas bon, etc. Donc c'est pas encore tout à fait standard. Et donc là aussi, conserver l'OS pour pouvoir installer l'application et conserver la machine pour pouvoir installer l'OS qui va lire l'application. Donc on voit en fait que pour un simple fichier, il faut conserver beaucoup de choses. Donc je parle d'écosystème, en fait, et voilà, le fichier, il est conservé avec tout un ensemble de matériel et de logiciels pour pouvoir le relire après. Alors, là, je vous parlais d'un fichier photo, un logiciel. C'est un petit peu plus complexe, parce qu'en fait, déjà, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un logiciel? Qu'est-ce qu'on entend par là? Nous, en tant qu'utilisateur, le logiciel, c'est l'exécutable. C'est ce qu'on va télécharger, lancer, et puis ça marche, et puis c'est bien. Pour d'autres, le logiciel, c'est un programme écrit, c'est un programme source. Parce qu'en fait, quand vous avez l'exécutable, vous ne comprenez pas en fait comment fonctionne votre logiciel. Or, pour quelqu'un qui s'intéresse justement à comprendre, il a besoin de pouvoir lire le programme source. Donc là, on voit que le logiciel, pour lui, c'est encore autre chose. Après, tu parlais de grands systèmes et tout à l'heure, effectivement, on a des systèmes très, très énormes comme le système de surveillance du réseau électrique, par exemple. Là, vous avez un code source qui est immense. On ne pourra pas le relire. Donc, et ça veut dire qu'il va falloir conserver en fait les morceaux importants et donc conserver l'algorithme qui va permettre de... Enfin, les morceaux importants, voilà. C'est qui va permettre de comprendre ce qui est vraiment la plus-value du logiciel, ou conserver aussi des diagrammes, des modèles qui vont expliquer, qui vont documenter le logiciel et qui vont expliquer ce qu'il voulait faire. Donc on voit qu'un logiciel, en fait, c'est pas qu'un exécutable, c'est qu'on a vraiment besoin de beaucoup d'informations. Ceci, en fait, en fonction de ce qu'on veut faire. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on va conserver? On va conserver ce qui est important pour l'institution qui va conserver. Ce qui est important, ce qu'elle veut, elle, valoriser après. Je prends différents exemples. Vous avez la Bibliothèque nationale de France, qui a le dépôt légal du logiciel depuis 1992. Elle, son objectif, c'est de pouvoir refournir à son chercheur, à l'utilisateur qui vient la voir, au lecteur, ce qui a été publié. Autrement dit, elle, ce qui l'intéresse, c'est l'exécutable. Il faut que la personne qui vienne à la BNF puisse rejouer le logiciel tel qu'il a été publié à l'époque. Donc elle va se contenter, entre guillemets, parce que c'est déjà compliqué, elle va se contenter de l'exécutable. Par contre, deuxième exemple, le Computer History Museum, qui est le musée d'histoire de l'informatique à Mountain View, en Californie, lui, c'est un musée d'histoire de l'informatique. Donc ce qui l'intéresse, c'est le source, et c'est aussi tout ce qu'il peut trouver qui va expliquer pourquoi on a fait ce logiciel, comment on l'a fait, etc. Donc on a tout un ensemble de documents qui vont accompagner donc, le logiciel. C'est bien sûr le source, c'est aussi les exécutables, c'est aussi éventuellement les compilateurs qui ont permis, c'est aussi la documentation, les modèles, c'est aussi, tu en parlais aussi, vous le faites à pas de sec, les interviews des personnes qui ont travaillé dessus. Toute cette mémoire, on a la chance en informatique c'est une science récente, on a encore les pionniers. Donc il faut en profiter. Donc effectivement, faire des interviews. On l'a fait nous aussi au Musée des Arts et Métiers, on a commencé à le faire à propos du Minitel, hein, où on a interviewé les pionniers du Minitel qui ont travaillé sur le Minitel. Voilà. Et après, troisième exemple, Software Heritage, qui est en fait une initiative assez récente de l'INRIA, qui date de 2016, si je me souviens bien, et dont le but, elle, c'est de conserver une bibliothèque de logiciels. Donc ça fait penser au logiciel que tu présentais tout à l'heure, hein, qui était un logiciel open source et qui a servi effectivement à d'autres pour développer éventuellement qui l'ont repris ou qui ont servi pour développer d'autres logiciels. Là, c'est le même principe de Software Heritage. Leur constatation, c'est de dire, en fait, un développeur, quand il développe son logiciel, souvent, il réécrit des choses qui ont déjà été écrites par d'autres. Donc c'est un peu idiot. Autant créer une grande base de données, où on a tous les logiciels sources, où les gens peuvent venir se servir, consulter, voir comment les uns ils ont développé, comment ils ont résolu le problème que moi je rencontre, est-ce que ça n'a pas été déjà résolu par quelqu'un d'autre, etc. Donc là, ce qui les intéresse, eux, c'est le source. Donc on voit bien qu'en fonction des objectifs, des institutions ou des initiatives dans le cadre de Software Heritage, on ne va pas sauvegarder la même chose. Donc nous, Musée des Arts et Métiers, on sera effectivement plutôt dans le cadre du Computer History Museum où on va essayer de sauvegarder en fait ce qui va faire l'intérêt technique du logiciel et toutes les informations qu'on peut avoir à côté. Donc que conserver ? Donc je reviens à mon exemple. On a vu tout à l'heure pour un fichier photo, donc on avait tout un tas d'objets et de matériel à sauvegarder. Pour un logiciel, on va avoir la même chose. Parce qu'effectivement, c'est un fichier numérique pareil. Mais en plus, on va avoir le problème de vouloir rejouer le logiciel. Et c'est là qu'on va rencontrer le problème. Excusez-moi. J'en ai un, moi aussi. On va rencontrer le problème, en fait, des licences, notamment. Licences qui donnent le droit d'utiliser le logiciel. Alors, au début, on avait soit ce petit outil. Enfin, par exemple, hein, c'était des équipements en fait électroniques. Excusez-moi, je bois, je ne vois plus.
Je n'ai pas de...
Non, mais j'ai de l'eau. Ah bon. Excusez-moi. Soit on avait ce petit équipement électronique qu'on appelait un dongle, quoi, qu'on connectait derrière la machine, qui permettait de lancer le logiciel et de l'exécuter. Ça, on ne le trouve pas souvent. Mais c'est du matériel, on arrive à le trouver. Autre cas aussi qu'on trouvait souvent, c'était des codes en fait qu'on rentrait hein, pour activer le logiciel. Ça, c'est pareil. On ne trouve pas souvent, encore moins souvent que le dongle. Mais encore, des fois, on l'a sur le papier, on a une petite note à côté, on arrive à le trouver. Mais maintenant, le problème, c'est que les activations, elles se font par Internet. Donc là, vous accédez à un site distant. Et un site Internet, ça a une durée de vie... qui n'est pas forcément très longue. Hein. D'autant plus que là, vous activez un produit, même sur un site de fournisseurs important, votre produit il a une durée de vie limitée. Donc quand il n'existera plus, quand une version suivante arrivera, vous risquez de ne plus avoir la page et donc de ne plus activer votre logiciel. Donc vous voyez, on a des problèmes qui ne sont pas résolus encore. Hein. On ne sait pas encore comment faire, à part... avoir des accords avec les concepteurs, enfin les fournisseurs. Et autre chose, c'est garder la configuration. Tu en parlais tout à l'heure à propos justement des expériences. Et c'est vrai que en expérience, en recherche, on a besoin de garder la configuration. Mais c'est complète de l'expérience, enfin de la configuration complète de l'environnement et du logiciel au moment où on va faire l'expérience pour pouvoir la refaire. Et nous, c'est pareil, on a besoin aussi d'avoir certaines configurations pour savoir comment lancer le logiciel pour qu'il fonctionne dans un certain environnement. Donc voilà, on a donc tout un tas de problèmes pour le moment qu'on ne sait pas encore vraiment complètement résoudre. Et qu'on peut résoudre qu'avec l'aide de toute façon des professionnels. Ça, c'est clair, de ceux qui fournissent le logiciel. Donc, j'ai marqué bon, méthode. En fait, donc, pour le moment, en fait, l'idée, c'est déjà, au moins déjà, délimiter l'objet qu'on va conserver, c'est-à-dire savoir ce que l'on veut conserver en fonction de ce qu'on va vouloir montrer après, valoriser après, et après, définir l'ensemble des matériels et logiciels qu'il faut conserver à côté. Donc ça, c'est la première chose. Après, c'est la conservation proprement dite. Donc là, on a d'autres soucis, puisque donc au niveau du matériel comme au niveau du logiciel. Au niveau du matériel, on se dit, bon, un ordinateur, ça a l'air assez costaud, voilà. Mais en fait, c'est du plastique. Et on sait que le plastique, en fait, ça se détériore et c'est irrémédiable. Vous avez, enfin, le plastique, c'est une molécule, macromolécule, qui est en fait très fragile et qui se casse très facilement. Et vous le voyez d'ailleurs régulièrement avec vos objets en plastique blanc qui jaunissent. Voilà, on a ça, c'est une première trace de dégradation. Mais on a des dégradations beaucoup plus importantes. Vous avez ici un cabestan, donc dans le petit trou là-bas, où vous avez la partie haute, vous voyez, qui est en fait un plastique un peu mou et qui se désagrège en fait complètement. Vous avez à côté sur la droite un cordon qui suinte. Hein, vous avez certainement chez vous, enfin, rencontré ce genre de cordon là qui colle aux mains. Voilà. Et ça, on sait aussi que ça va couler. Et certains, on a des problèmes nous notamment avec des patins de micro-ordinateurs qui se trouvent dessous là, qui permettent, voilà, ces patins très très souples. Et en fait, au bout d'un moment, au bout de 10 ans, 20 ans, ils fondent carrément. Ils fondent et ils coulent sur le bureau. Enfin voilà. Et nous, enfin en tant que au niveau de la conservation, ils peuvent abîmer en fait d'autres objets qui sont à côté. Vous avez après ce suintement peut provoquer des moisissures, comme vous avez à droite. En dessous, vous avez des problèmes avec les batteries qui explosent et donc qui peuvent interagir avec des métaux. Hein. Bon, ça, à la rigueur, ça peut se nettoyer. Bon, c'est peut-être moins embêtant. Et vous avez un exemple un petit peu plus rare, hein, mais qui existe. C'est un écran, en fait. Hein. Dans les années 70-80, on avait des écrans, des moniteurs, dont le tube cathodique était protégé par un verre. Et entre les verres, en fait, on coulait une matière qui permettait de souder les deux et qui était aussi une protection pour le verre du tube cathodique. Et en fait, cette matière, elle se transforme et se désagrège. Et ça fait cette espèce de moisissure en fait, qui apparaît derrière. Et ça, on ne peut pas non plus le résoudre, à part l'enlever. Hein, il faut tout démonter. Enfin, bon, c'est quelque chose de très, très, très prenant. Enfin, c'est faisable, mais ce n'est pas facile. Voilà, donc on a des problèmes de conservation. Hein, donc même si on fait attention à bien préserver du matériel, etc., pour pouvoir relire nos logiciels, on a le problème de la conservation de ce matériel et on n'est pas sûr de pouvoir l'utiliser. Donc là, les solutions, en fait, qui sont des solutions à moyen terme, c'est les conditionner de façon spécifique, faire attention à ce que les matières plastiques ne se touchent pas les unes les autres pour ne pas se coller les unes aux autres, faire un suivi régulier, hein, pour voir où en est en fait la dégradation, notamment sur les patins, on essaie de les garder le plus longtemps possible, mais bon, quand ils commencent à se dégrader, il faut les enlever, et puis documenter les objets par du texte, de la photo, hein, c'est ce que tu disais, c'est que voilà, il y a un moment donné, il y aura peut-être que ça qui restera, mais voilà, au moins ça restera. Alors, pour conserver le patrimoine matériel, donc là, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, c'est pour le premier problème, c'est donc la lecture des multiples supports, ça veut dire qu'il faut garder un parc assez important de lecteurs. C'est notamment l'origine de la collection Charles Cros à la BNF, qui est une petite collection que vous connaissez, enfin, qui est rarement connue, qui en fait, c'est des supports qui leur permettent de relire tous les supports de documents qu'ils ont conservés. Alors, ils ont aussi des phonographes pour de façon à pouvoir relire les cires, enfin les tuyaux de cire, comment ça s'appelle, je ne trouve plus le mot. Les cylindres, voilà, ouais. Merci, voilà. Donc c'est, voilà, l'origine en fait de cette collection Charles Cros, elle est là, et donc c'est vrai qu'il s'intéresse aussi, bien sûr, aux lecteurs de disquettes et voilà, aux lecteurs informatiques. Et donc recopier régulièrement, en fait, quand, une fois qu'on a récupéré un fichier numérique, c'est de recopier régulièrement sur des supports de plus en plus récents. Après, pour la compréhension des contenus, il n'y a pas grand-chose à faire qu'essayer de trouver la documentation qui nous explique comment était formaté en fait, le fichier, comment était structurée l'information dans le fichier. Voilà, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Quand ce sont des formats très spéciaux et qu'on arrive à les relire, c'est peut-être les sauvegarder dans des formats plus standards pour pouvoir les relire facilement, mais c'est pas toujours facile. Pour la conservation des systèmes d'exploitation, donc là on arrive à s'en affranchir en fait. On fait ce qu'on appelle une émulation, c'est-à-dire qu'on fait un petit logiciel qui va agir comme faisait le système d'exploitation. Et donc il va faire une interface en fait entre l'ancienne application et la machine actuelle. Et donc en fait c'est que ce petit logiciel est assez réduit et facile en fait de le porter, enfin de le maintenir d'une machine à une autre. Donc ça, on arrive, c'était le but du projet KIP, qui était un projet qui a été mené par la BNF, justement, pour la préservation des jeux vidéo, parce qu'ils ont beaucoup de jeux vidéo à cause du dépôt légal. Conserver des applications, voilà, là, on ne peut pas en objet les conserver, et documenter, toujours pareil, hein, voilà, c'est ce qu'on gardera le mieux. Après, le deuxième enjeu, donc là, c'était que le premier enjeu. Deuxième enjeu, mais c'est plus rapide. Deuxième enjeu, c'est comment y accéder, en fait, comment, une fois qu'on a conservé ce logiciel, comment permettre, en fait, aux lecteurs, aux chercheurs, au public, d'y accéder. Donc là, j'ai plus parlé, en fait, ici, des lecteurs, des chercheurs avec les bases de données. C'est un travail d'indexation. Et chaque institution va en fait utiliser des indexations liées à son domaine. C'est-à-dire que la BNF va indexer le logiciel comme un document. Donc on peut y accéder depuis, je vous ai mis les captures d'écran, on peut y accéder assez facilement finalement depuis la recherche avancée donc sur le catalogue de la BNF. Et là, on va tomber en fait sur donc l'écran de droite où vous avez le nom du logiciel, son type. Là, c'est un logiciel de jeu. Je crois que c'était Pac-Man. Là, je vois plus très bien, mais c'était Pac-Man. Et puis l'année où il est sorti. Donc, du coup, on peut avoir la version. Enfin, voilà. Mais c'est un document. C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout, comme tu l'as présenté d'ailleurs sur la fiche de PADSEC, des informations techniques sur le langage utilisé, etc. La BNF, c'est pas ça qui l'intéresse. Donc on voit bien qu'on a des conservations et indexations différentes en fait selon l'objectif hein, de chaque institution. Computer History Museum, eux en fait ils ont utilisé un autre procédé, ils ont carrément créé un site spécifique pour le groupe qui s'occupe de la préservation du logiciel, le Software Preservation Group, où là on peut accéder en fait au projet au projet qu'ils mènent pour conserver certains logiciels. Donc actuellement, ils travaillent sur trois projets. Le premier, c'était Fortran, qui est fini, qui a été leur projet pilote pour essayer de définir la méthode. Le deuxième, c'était Lisp, et le troisième, j'avoue que je m'en souviens plus. Enfin bon, du coup, je vous renvoie si ça vous intéresse au site du Computer History Museum. Et en fait, pour chaque projet, vous avez une arborescence qui vous permet d'accéder au code source, aux documentations, aux interviews des personnes, à tous les documents de modélisation. Il y a même des microfilms, des scans de microfilms, on ne voit pas très bien, mais enfin, on peut, du coup, on sait qu'on peut en tout cas aller les voir chez eux. Enfin voilà, donc on peut comme ça naviguer, si vous voulez, dans leur. Mais il n'y a pas d'indexation, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas ce contenu dans la base de données. Quand vous tapez Fortran dans la base de données du Computer History Museum, vous allez avoir ce que je vous ai mis à droite, noyé dans un ensemble de livres, comment utiliser Fortran, etc., qui vous intéresse moins. Vous allez avoir cette page où c'est marqué Fortran Software, machin. Et puis, vous n'avez aucun lien qui vous permet de rejoindre, en fait, les différents objets qu'ils ont sauvegardés à côté de ce software. Alors, ils commencent, donc ça va venir. j'imagine. Mais pour le moment, voilà, on a un peu ce manque-là qui fait que, oui, on préserve du logiciel, mais en fait, ce n'est pas facile encore de naviguer, en fait, hein, entre les différents objets qui sont associés à ce logiciel. Software, c'est justement le travail que veut faire aussi Software Heritage. Là, j'en parle pas parce qu'en fait, ils débutent. Hein. Pour le moment, ils stockent, en fait, tout le code source qu'ils ont pu trouver et ils sont en train de travailler sur des indexations, justement, pour pouvoir accéder aux différents éléments qui sont associés au logiciel qu'ils ont sauvegardé. Donc voilà, donc je vous ai fait une présentation, j'espère pas trop catastrophique, mais en fait c'est beaucoup de problèmes en fait, c'est très complexe et c'est beaucoup de problèmes et on débute. Donc c'est vrai que pour le moment il n'y a pas beaucoup de réponses, il y a beaucoup de questions. Donc en gros c'est ça la conclusion, c'est que voilà, c'est un patrimoine complexe et on ne sait pas encore tout à fait comment faire. On part du principe que de toute façon tout ce qu'on va sauvegarder pour le moment c'est déjà ça. Voilà. Et que même si on n'a pas les réponses maintenant, on les aura peut-être plus tard. Hein, quand on voit en fait tout ce qui peut se faire en histoire, en analyse de génome, etc., on obtient plein d'informations. Enfin, je pensais l'autre jour, j'ai vu un film sur les analyses qui ont été faites sur des cadavres de personnes qui étaient décédées en 1800 avant Jésus-Christ. On arrive à savoir ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont mangé dans ces 2 ans qui ont suivi avant leur mort. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Donc, je me dis, bon, là, on a des problèmes, mais bon, on va sans doute avoir... Donc, par contre, il faut la matière première. Donc, voilà, on sauvegarde la matière première. Déjà, c'est ça qui est important. Et on essaie de les conserver le plus longtemps possible. Donc, ça, c'est pareil. J'espère bien qu'un jour, il y aura des solutions. On a des publics très différents, donc ça veut dire qu'effectivement, il faut pouvoir y accéder, donc, de façon différente. Donc ça, c'était le problème des métadonnées à trouver. Donc ça, c'est pareil, c'est un problème de recherche, mais ça se résolue, il y aura des solutions, ça, c'est sûr. Et alors, on est en tout début. On a des initiatives, je vous ai présenté 3 initiatives qui sont assez différentes, mais qui sont justement complémentaires. C'est ça qui fait l'intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il ne faut pas qu'on travaille sur une homogénéisation parce que chacun, en fait, on regarde le problème par un aspect différent. Et donc, on se complète, on apporte des solutions différentes. Et ça, c'est intéressant. Et ce qu'on fait avec PADSEC, et ce que j'espère que le musée va aussi mettre en œuvre, c'est voir l'aspect du coup technique peut-être, plus une orientation technique qui, bien sûr, parce qu'on est musée des techniques, pour moi, manque actuellement à cette recherche. Computer History Museum s'intéresse à l'histoire de l'informatique, mais finalement, il est assez social, enfin, à l'histoire des gens, etc. Et il n'a pas, pour le moment, alors ça viendra peut-être, je ne suis pas non plus dans leur planification, mais pour le moment, ils n'ont pas cette approche technique. J'espère qu'on arrivera à la développer. Nous. Et c'est surtout aussi, d'un point de vue métier, c'est de nouveaux métiers à prévoir. Parce qu'on voit bien, en fait, qu'on a sans arrêt, en fait, de la maintenance à faire sur les logiciels, notamment en émulation, où il va falloir porter ces petits logiciels intermédiaires là, de machine en machine. Hein, à chaque fois qu'on va avoir une machine plus récente, un système plus récent, il va falloir le porter sur le faire évoluer pour qu'on puisse s'en servir toujours. Donc on va avoir besoin de, restaurateurs, entre guillemets, au musée qui seront capables de concevoir ces logiciels et de les porter. Il faudra aussi des restaurateurs qui seront capables éventuellement de maintenir des systèmes anciens. Donc pour moi, il y a des nouveaux métiers au niveau de la restauration qui doivent voir le jour dans les futurs musées, que ce soit chez nous d'ailleurs, et même que ce soit aux Beaux-Arts, c'est pareil, parce qu'on a de plus en plus d'installations artistiques qui utilisent des ordinateurs. Donc on se retrouve ils se retrouvent eux aussi avec ce problème-là. Voilà. Merci. Je vous remercie. Merci.
Non, merci Isabelle. Merci d'être venue.